Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur nos ondes locales. Nous sommes ravis de vous retrouver cette année encore pour une nouvelle chronique du passé. Et voilà, bonjour Gilliane.
Bonjour Martine. Bonjour à tous. C'est la rentrée et nous allons parler d'une pionnière qui a dû attendre jusqu'à l'âge de 37 ans pour avoir le droit de passer le baccalauréat. Quelques notes sautillantes sur le chemin de l'école avec le pizzicato, extrait de Sylvia de Léo Delibes. D'abord qu'à notre connaissance, elle n'est jamais passée à Bourg. Mais un collège a pris son nom, l'ancien collège de la Croix-Blanche, ce qui nous permet de nous intéresser à elle dans cette chronique.
Elle naît en 1824 à Bain-les-Bains, dans les Vosges, et c'est le 8e enfant de la famille. Son père est caissier dans la manufacture royale de fer blanc, et à ce titre, il est logé par son employeur. Malheureusement, il meurt alors que Victoire n'a même pas 2 ans. Catastrophe, parce que Madame d'Aubier se retrouve sans logement et sans ressources avec ses 8 enfants, dont l'aîné, Florentin, vient d'avoir 15 ans. Elle part à une dizaine de kilomètres de là, à Fontenoy-le-Château, où habite sa belle-famille.
On n'a pas de détails sur sa vie alors. On peut supposer que Madame d'Aubier a été un peu aidée, au moins à son arrivée. On sait qu'elle a fait instruire ses enfants, alors que l'enseignement était payant. Mais la suite montre qu'elle a connu de grandes difficultés parce qu'elle n'avait pas de métier. Elle avait cependant un emploi, mais très mal payé, comme c'était le cas pour toutes les ouvrières.
À 20 ans, Victoire a obtenu le certificat d'aptitude pour l'enseignement primaire supérieur, alors qu'il n'était pas indispensable pour enseigner aux filles. Ce diplôme était obligatoire depuis 1833 pour les instituteurs, mais n'importe quelle femme pouvait se déclarer institutrice. Contrairement à sa mère, elle a pu avoir un métier et gagner correctement sa vie. Victoire a donc compris l'intérêt de l'instruction pour les filles. Alors, pourquoi ne pas aller au-delà? Elle a demandé à Florentin, son frère aîné, qui était prêtre, de lui enseigner ce que seuls les garçons apprenaient, en particulier le latin et le grec, car ces deux disciplines étaient indispensables pour passer le baccalauréat.
Il n'existait pas d'école secondaire pour les filles. Une historienne de l'éducation des filles nous explique pourquoi. L'apprentissage de ces deux langues, latin et grec, comme celui des mathématiques et de la philosophie, était traditionnellement refusé aux femmes sous prétexte qu'elles étaient dangereuses pour leur modestie et le développement de leur esprit.
En 1859, elle a donc 35 ans, elle entend parler d'un concours organisé par François Barthélemy Arlès Dufour. C'est un industriel lyonnais, un Saint-Simonien, soucieux de lutter contre la misère et épris d'égalité. À son mariage, il a accolé le nom de sa femme au sien. Mademoiselle Dufour était une Allemande, descendant de Huguenots français, chassée de France par la révocation de l'édit de Nantes. Il possédait un terrain à Pérona, sur lequel son fils a fait construire le château de la Bécassinière. Il est près du château d'Usset. Il existe toujours, c'est une propriété privée.
Le sujet du concours. Trouver des moyens pour élever le salaire des femmes et leur ouvrir de nouveaux emplois. Là, Victoire est à son affaire. Pour elle, la réponse est évidente. L'instruction. Elle y participe et gagne le premier prix. Une médaille, c'est-à-dire une récompense, de 800 francs. Déjà intéressant, certes. Mais ce qui se révélera encore plus important pour elle, elle est désormais connue à Lyon.
Sans doute a-t-elle présenté sa candidature au baccalauréat à Paris, mais rien ne l'atteste. Ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a présentée à Lyon avec l'appui d'Arlès Dufour. Il lui faut tout de même aller voir le recteur d'académie, Louis de La Saussaye, pour lui faire admettre que rien dans les textes n'interdit aux filles de se présenter au baccalauréat.
Évidemment. Rappelons qu'il y a des matières que seuls les garçons étudient. Les filles étant exclues d'office, bah, c'était inutile de le présenter, de le préciser dans les textes.
Le secrétaire de l'Académie de Lyon lui écrit le 8 juillet 1861. J'ai l'honneur de vous faire savoir que vous avez à choisir entre le 13 et le 16 août pour le premier jour de votre baccalauréat S-Lettres. Si vous désirez éviter une trop grande affluence de curieux, vous ferez bien de choisir le 13 et de le laisser ignorer autant que possible. C'est bien une convocation.
Oui, mais ce n'est que 2 semaines plus tard que le recteur lui écrit que la faculté accueillera avec bienveillance son projet de se présenter devant elle au baccalauréat. Donc l'autorisation est envoyée après la convocation.
Mais en fait, la première lettre, celle du secrétaire lui donnant le choix entre 2 dates, n'arrive que le 12. Trop tard pour se présenter le 13. Les épreuves se déroulent au Palais Saint-Pierre, c'est l'actuel musée des Beaux-Arts, dès 7h du matin.
Le journal Le Temps, du 24 août 1861, relate « Il faut se résigner à comparaître le 16, c'est-à-dire seul, au milieu d'une jeunesse plus ou moins rieuse. Vous imaginez quel émoi ?» Cependant, Mademoiselle Daubier fut bientôt rassurée. Un local particulier lui avait été réservé pour ses épreuves écrites. Victoire avait donc 37 ans quand elle a obtenu le droit de passer cet examen.
Et alors, comment se passait le baccalauréat en 1861 ?
Institué par Napoléon Ier en 1808, c'est le premier grade universitaire. Ce sont les professeurs d'université qui préparent les épreuves, qui les font passer et qui les corrigent. Les choses ont bien changé. Même si, actuellement, c'est toujours un professeur d'université qui préside le jury. Pour tout le reste, ce sont les professeurs de lycée.
En 1861, le baccalauréat se passe sur 2 jours consécutifs. Il y a plusieurs groupes de 2 jours dans une session. À chaque fois, 25 candidats au maximum. 2 épreuves écrites le premier jour, version latine pendant 2 heures, discussion latine 4 heures, c'est-à-dire une dissertation en latin. Les résultats sont connus dès le soir. S'ils sont suffisants, le candidat est admissible à l'oral et passe 6 épreuves le 2e jour. Le système de notation est particulier. Il est inspiré du système d'élection d'un nouveau membre dans les clubs anglais. Les membres votaient pour dire s'ils acceptaient le prétendant en mettant une boule blanche dans une urne ou s'ils ne l'acceptaient pas, une boule noire. Si ce prétendant avait trop de boules noires, il n'était pas admis et était donc blackboulé. C'est de là que vient ce mot.
Revenons au baccalauréat. Ce système est complété par l'ajout de boules rouges qui signifie « ce devoir est passable ». Pas vraiment mauvais, donc pas une noire. Pas vraiment bon, donc pas une blanche. Un peu comme une abstention.
Pour l'admissibilité à l'oral, rappelons qu'il y a 2 épreuves. Le candidat est blackboulé s'il obtient 2 noires, ou bien une noire et une rouge. Victoire a obtenu une rouge et une blanche. C'est d'ailleurs la seule des 22 candidats cette journée qui a obtenu une blanche en discussion latine. Et en tout, 10 boules sont attribuées. Résultat final de Victoire, 3 blanches, 6 rouges et 1 noire.
Alors pour la réussite, mention passablement, il faut au plus 2 noires. Victoire n'en a eu qu'une, c'était en mathématiques. Pour la mention assez bien, au moins 4 blanches et au plus 1 noire. Et il ne lui a donc manqué qu'une blanche. Et Victoire s'est contentée de la mention passablement. Elle a donc le bac. Que nenni, même si le jury proclame, Mademoiselle Daubier est certainement le premier bachelier de sexe féminin. En fait, le jury ne délivre que des certificats d'aptitude au baccalauréat. Les candidats ont réussi les épreuves, c'est tout. Ils ne sont pas encore bacheliers.
Ces certificats d'aptitude sont transmis au recteur d'académie qui appose son visa ou pas. Il peut estimer qu'il y a eu défaut de forme ou excès d'indulgence. On lui remet les copies. Puis tous ces certificats, visés ou non, sont transmis au ministre de l'Instruction publique qui les signe ou pas. Et pour Victoire, le ministre, Gustave Roulant, aurait dit « Vous voulez ridiculiser mon ministère ?»
Arlès Dufour intervient auprès de l'entourage de l'impératrice Eugénie, laquelle fait convoquer un conseil des ministres par son impérial époux Napoléon III, pour pousser Gustave Roulant à signer le diplôme. Il ne s'exécutera que le 7 décembre, c'est-à-dire 3 mois et demi après la réussite de Victoire.
Et le recteur, lui, ne remettra le diplôme à Victoire que le 17 mai 1862, 5 mois et demi après la signature du ministre et 9 mois après la réussite. Remarquons que les 21 garçons qui ont passé le baccalauréat en même temps que Victoire se sont montrés bien plus ouverts que ces importants messieurs, puisqu'ils se sont cotisés pour lui offrir un anneau d'or.
Un beau diplôme qui mentionne le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes donne par les présentes au dit sieur Daubier le diplôme de bachelier S-lettres. Ah oui, le diplôme était pré-imprimé et ne pouvait être donné qu'à des garçons. Victoire porte bien son prénom. C'est elle qui a ouvert la voie.
Elle ne s'est pas arrêtée là, bien sûr. Elle a voulu continuer ses études pour obtenir la licence S-lettres. Inscrite à la Sorbonne, elle n'a pas eu le droit d'y suivre les cours. Des filles, au milieu d'étudiants garçons, risqueraient sans doute de distraire ceux-ci. Elle réussit cependant la licence le 28 octobre 1872, à l'âge de 48 ans et demi. C'est le premier licencié S-lettres de sexe féminin. Notons que les cours à l'université ont été interdits aux filles jusqu'en 1880. Elles pouvaient néanmoins passer l'examen. Un progrès par rapport au baccalauréat.
Après elle, arrive la deuxième bachelière, en dénomination moderne, Emma Chenu, en 1863, soit 2 ans après Victoire.
Parallèlement à ses études, elle a mené un combat pour que les filles aient droit à la même instruction que les garçons, pour que les institutrices aient une obligation de diplôme pour enseigner. Ce sera le cas à partir de la loi Fallou en 1850.
Oui, mais avec une exception de taille. Pas de diplôme obligatoire pour les religieuses qui ont pu continuer à enseigner. Il faut reconnaître que, pendant longtemps, elles ont été les seules à bien vouloir instruire les filles. Alors, on les laisse continuer. Mais cela défavorise les filles puisque leur enseignement n'est pas contrôlé et qu'il est fondé pour beaucoup d'entre elles sur la répétition. Lecture, couture, catéchisme. Les garçons, eux, ont droit à l'écriture et au calcul. Victoire Daubier meurt en 1874, à l'âge de 50 ans.
Ce n'est que 7 ans plus tard que les lois Jules Ferry de 1880-1881 rendront l'école obligatoire pour les filles, avec toutefois un programme différent de celui des garçons. Les religieuses qui enseignaient sans diplôme ont le droit de continuer. Seules les nouvelles doivent être diplômées. En 1924, les programmes pour garçons et filles et pour les filles sont unifiés. Mais les écoles ne sont pas mixtes et certains manuels scolaires continuent à être différents suivant le sexe.
Alors à notre époque, les programmes scolaires sont identiques. Les examens le sont aussi. Et on peut vérifier que Montesquieu était visionnaire, un siècle avant la naissance de Victoire, en affirmant dans sa lettre persane 38 « Les forces seraient égales entre les hommes et les femmes si l'éducation l'était aussi. Éprouvons-les et nous verrons si nous sommes si forts. »
Voilà. Nous nous quittons en remerciant Jimmy pour cette reprise à la technique Et en prenant cette fois une petite leçon de latin avec Jacques Brel, Rosa. Au revoir à tous.
C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis.